Chers auditeurs, bonjour. Voici l'émission La parole et le chant, la voix hispano-américaine depuis Besançon. Je suis Chantal Mort et je vous invite à rester à l'écoute sur Radio Bip, sur la fréquence 96-90, sur FM. La palabra y el canto, la parole et le chant, la voix hispano-américaine depuis Besançon se trouve ce soir à Radio Bip pour une émission spéciale Festival Latino Corazón, troisième édition. Latino Corazón, c'est du 21 novembre au 3 décembre. 21 novembre, on a commencé très fort avec une exposition à la ZEP de nos amis colombiens Ileana, Rodrigo, Maria Elisa. C'est jusqu'au 2 décembre à la ZEP. Nous avons également 5 films au Petit Kursaal. Nous avons pu voir ou revoir Carte postale de Leningrad de Mariana Rondon, Sleep Dealer d'Alex Rivera, Rabia qui nous a fait l'ouverture de René Castillo et également Nostalgie de la lumière et le violon. Nous avons également notre journée de l'artisanat hispano-américain. C'est le samedi 3 décembre à partir de 14h et à la salle Battant, plus exactement au 48 de la rue Battant. Et notre spectacle de clôture multiculti avec La Frontera, Seikuma Palenque Afro-Latino, un duo de bossa avec Brigitte et Selim et un tango argentin avec Fabienne et André. Mais pour le moment, nous sommes à Radio Bip 96.9 avec nos invités Priscilla, Nicolas, Ileana. Donc, Ileana, lectrice, Nicolas, le lecteur et Priscilla Tenard, auteur du livre « Vue de Buenos Aires » ou « Vue de Buenos Aires » qui est paru en 2011 aux éditions de la Maison Chauffante. Alors vous pensez bien que la parole et le canto, la parole et le chant, ne voulaient en rien rater l'occasion de vous faire découvrir cet auteur superbe et ce livre magnifique et étrange de « Vue de Buenos Aires »,« Vue de Buenos Aires ». Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir Priscilla.
Bonsoir.
Nicolas.
Bonsoir.
Et Ileana, bien sûr.
Bonsoir.
Alors, merci d'être là. Alors, qui, quoi, me faites-moi rêver un peu. C'est quoi, Vue de Buenos Aires, Priscilla? Qu'est-ce que c'est également? J'ai lu Maison Chauffante. Allez, on va se tutoyer. Tu peux nous expliquer ça?
Alors, Vue de Buenos Aires, c'est mon deuxième livre aux éditions de la Maison Chauffante. Le premier étant « J'ai vu et j'ai entendu Amsterdam ». Donc, ce sont tous deux des guides sensibles pour arpenter des villes avec un regard artistique, en fait. Donc, c'est pas vraiment des guides pratiques dans la forme, hein. Juste une petite correction, Nicolas et Ileana ne sont pas simplement les lecteurs et les lectrices de ce livre.
J'attendais que tu fasses cette réflexion.
Nicolas Mensch a écrit la postface de ce livre et Ileana en a fait la traduction en espagnol, accompagnée de Rodrigo, son mari. Voilà.
Alors, ce début de projet, il commence donc par ce livre sur Amsterdam, mais c'est un projet que tu as fait à Besançon. Comment as-tu pensé à cette œuvre?
Mais si on commence depuis le départ, donc en fait, je porte beaucoup d'intérêt à la mémoire et à la question de l'identité à travers l'espace urbain. Donc, c'est mon lieu d'étude et j'aborde les notions de territoire et de population. Donc la question du territoire, je m'intéresse à l'architecture d'une ville, à comment elle est construite, les choses purement matérielles, un cadre statique, on va dire, et opposé à cela, la population ou les habitants, le côté plutôt vivant, la notion d'habiter un espace. Et du coup, je relève les traces que les habitants laissent dans la ville et je fais une sorte d'état des lieux de cette ville, en fait. Donc, ce sont des relevés précis qui peuvent paraître très anecdotiques. Donc, d'ailleurs, le livre est construit ainsi. Il y a des courts textes sous forme de petites brèves, d'anecdotes et des photos qui se rencontrent, qui se côtoient dans cet objet.
Donc c'est bien une démarche artistique, ce n'est pas un simple livre anecdotique, c'est bien de l'art.
Oui, c'est bien de l'art basé sur le quotidien et avec les habitants au cœur de cette histoire, en fait, parce que je m'inspire des traces qu'ils laissent dans la ville.
Alors ces traces, peut-être, on pourrait les écouter, peut-être quelques lectures, hein. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, on peut faire des extraits, effectivement, on va le lire. Enfin, j'invite Nicolas et Iliana à vous faire entendre quelques extraits. Ce ne sont pas des traductions en direct, donc ce que Nicolas va lire en français, c'est pas ce que Iliana va lire en espagnol. Donc pour voilà.
Alors,
on dit pas plus.
On embarque pour Buenos Aires.
Después de las dos calles turísticas de La Boca llamadas Caminito, se ven los tugurios. Miseria y abandono se esconden detrás de las ventanas sin vidrio, reemplazadas por cartón. Hacen 38 grados centígrados ese día. En el fondo de uno de los solares, niños retozan en una piscina inflable. Buses panorámicos hacen el tour. Los turistas no salen. Bajarán en el decorado del cine del Caminito, latas pintadas de colores vivos, músicos de tango, 15 pesos la fotografía de los bailarines.
Le trottoir est à la charge du propriétaire de la maison qu'il dessert. Mais à La Boca, il devient un prolongement de la propriété. Chaque terrasse subtilisée est séparée de l'autre de deux ou trois marches. Les piétons marchent alors sur la route.
À partir de las 17:30, individuos vienen a escarbar los botes de basura. Plásticos, cartones, se amontonan sobre el carro de los cartoneros, tirado por un caballo o empujado con la fuerza de los brazos. Los cartoneros pueden ganar, en promedio, 800 pesos por mes, en función del peso acumulado.
La plupart des kioscos et farmacias ont protégé leurs vitrines à l'aide d'une grille. Le client ne peut donc pas entrer. La transaction se fait sur le trottoir, par l'intermédiaire d'une petite ouverture.
Sobre la fachada de este monumento histórico, resaltan estas palabras. Prohibido fijar carteles y pintar leyendas. Monumento histórico nacional... Decreto 349-99. Esta frase está pintada directamente sobre la piedra gracias a una plantilla y a un atomizador negro.
San Telmo, quartier des antiquaires, des danseurs de tango et des pièges à touristes. Au fond d'un vieux gymnase poussiéreux, José María attend ses élèves pour leur première leçon de tango. Il leur a fait traverser la ville, hors des sentiers, à la recherche d'un morceau de cuir et d'un bottier. Il est un guide dans ce voyage.
En el metro, una joven lleva un brazalete con el retrato de Benedicto XVI. Un joven lee un libro, 365 días con Cristo. Es su agenda.
Dans le métro, une Roumaine échange une image religieuse contre quelques sous. Elle vient de Timișoara et elle parle quelques mots de français. Un New-Yorkais a attendu qu'elle tourne le dos pour lui rendre l'image qu'il a laissée par terre, accompagnée d'un billet de 10 dollars.
En la intersección de dos túneles subterráneos del metro, hay una pequeña capilla con una escultura de la Virgen. Las personas se detienen y rezan mientras el cambio de línea.
Ligne A, un métro avec un intérieur en bois. Les miroirs sur les cloisons sont tachetés par le temps. Ligne E, des barreaux jaunes protègent les fenêtres et l'ensemble est équipé d'ampoules de verre à incandescence, fournissant un éclairage jaune.
Barrio Recoleta, blanco, bien mantenido, de apariencia osmaniana, un banco francés, embajadas, ministerios, entre ellos el del interior, protección de bolardos contra los autos frente a las rejas, cámaras de videovigilancia.
Dans le bus, il faut mettre l'appoint, un peso 10, dans la machine placée derrière le conducteur. Le prix du ticket varie selon la distance. Comptez un peso 50 pour parcourir entre 6 et 9 km. Le chauffeur est le seul à pouvoir décider d'éditer le ticket. Une petite bande de papier, 80 grammes, mesurant 3 sur 7 cm.
Alexia, originaria de Besançon, vive en Ramos Mejía, en los suburbios. Ella me presenta a Lucía y a Mariana, las dos de 31 años. Trabajan al negro por 1,000 pesos al mes. No es suficiente para hacer proyectos, como la mayoría de los jóvenes viven con sus padres. Las casas se venden por 2,000,000 de pesos, lo que equivale a un crédito de 50 años. Por falta de medios, estas muchachas cultivan difícilmente un sueño. Existe poco trabajo en la capital y ellas no quieren ir a otro lado. Ir al campo, arrancar un kilo de patatas por un peso, eso no vale la pena. La crisis se vuelve permanente.
Très peu de pièces circulent. La richesse des Argentins repose sur la monnaie. Ils l'achètent 10% au-dessus de sa valeur.
Para las grandes sumas, los argentinos hablan en dólares. Ciertas personas pagan la renta en efectivo y en esta divisa.
Les agences immobilières affichent les biens en dollars.
El Uruguay es para los argentinos como Suiza para los europeos. Después de la crisis económica del 2001, las clases medias y altas han depositado sus economías en Montevideo.
Une petite pause musicale sur Radio BIP 96.9. Écoutez La Parole et le Chant, la voix hispano-américaine depuis Besançon, avec Radio BIP sur la fréquence 96-90 sur FM. Après ce tango électro stupéfiant, j'ai beaucoup aimé, on retrouve sur 96.9 La Palabra y el Canto, la voix hispano-américaine depuis Besançon. On retrouve Priscilla Tenar et son livre Voix de Buenos Aires.
Vue de Buenos Aires.
Vue de Buenos Aires, pardon. Donc, ce livre, tu m'as dit que c'était un projet que tu as commencé à Besançon avec la maison chauffante à Planoise. Explique-nous un peu pour nos auditeurs, s'il te plaît.
Alors, effectivement, j'ai commencé par m'interroger à Planoise lors de la démolition des trois tours, le 7-9-11 rue de Cologne. Et j'étais amenée à faire une photothèque de l'avancement du chantier. Et j'ai rencontré les habitants, j'ai rencontré les architectes, les urbanistes, les animateurs sur le quartier, les médiateurs. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la relation qu'il y avait entre la mémoire d'une ville et ses habitants. Et donc, du coup, ça a été le point de départ de toutes mes recherches. J'ai mené un diplôme sur le 7-9-11 rue de Planoise. Je l'ai présenté à mon DNSEP à l'École des Beaux-Arts de Besançon en 2007. Entre-temps, ça m'a amené à Amsterdam où j'ai reproduit un petit peu, j'ai appliqué cette grille de lecture que je commençais à élaborer sur Planoise à Amsterdam, et petit à petit encore je l'ai amené à Buenos Aires, et j'espère multiplier maintenant ce travail sur différentes villes et peut-être avoir une formule beaucoup plus légère que les livres que vous pouvez voir ce soir, des petites micro-éditions qu'on peut faire soi-même et puis diffuser un peu plus largement, en fait. Voilà.
Alors, tu as rencontré plusieurs personnes, donc, à Planoise, à cette maison chauffante, et tu as rencontré également Nicolas. Nicolas, tu nous en dis un peu plus sur cette rencontre, s'il te plaît, Nicolas.
Oui, j'ai rencontré Priscilla par l'intermédiaire d'une collègue. Je suis doctorant à l'Université de Franche-Comté. Et moi, je mène une thèse sur le thème des graffitis, plus spécialement une thèse qui vise à comprendre comment se concrétise l'opposition classique entre une conception artistique du phénomène et une conception plutôt délictueuse. Alors, je connaissais déjà vaguement le travail de Priscilla sur Besançon, et lorsque ma collègue qui s'appelle Audrey, que je salue, m'a parlé de Priscilla, elle en était en phase finale de rédaction de son ouvrage, Vue de Buenos Aires. Elle était en train de chercher plus ou moins quelqu'un pour rédiger cette postface.
Hop, Nicolas est apparu.
Voilà, on s'est rencontré dans un café qui est devenu une cuvée rapidement. On ne va pas lui faire de pub, si. C'est un petit café, place de la Révolution. Non, c'est pas gratuit, on va pas faire des choses.
Nous aussi, on s'est rencontrés dans un café avec Priscilla.
Voilà. Et en fait, en me proposant de réfléchir à son ouvrage, j'avais envie de mettre en perspective toutes les questions qu'il me proposait. En fait, je ne suis jamais allé à Buenos Aires, et j'avais quand même quelques connaissances sur l'Amérique latine, notamment du fait de mon parcours scolaire. J'ai fait de l'espagnol en langue vivante. Alors j'ai entendu parler d'Amérique latine, de Buenos Aires. Je me suis intéressé aussi plus en autodidacte. Et curieux d'approfondir toutes ces connaissances-là, j'étais très intéressé de la démarche que tenait Priscilla sur la transmission de ses expériences à Buenos Aires.
Et tu nous as fait une belle postface. On peut peut-être écouter quelques extraits.
Quelles étranges activités que celles déployées par le voyageur. Au fil des siècles, il a pu explorer, conquérir, visiter, étudier. Dans ses moyens ou dans ses fins, le voyage relève du fait culturel. Désormais, c'est sous forme touristique que la propension à courir le vaste monde retient grand nombre de nos contemporains.
Qué extrañas actividades son aquellas desplegadas por el viajero. A lo largo de los siglos, este ha podido explorar, conquistar, visitar, estudiar. En sus medios o en su finalidad, el viaje atañe al hecho cultural. Hoy en día es bajo la forma turística que la propensión de recorrer el mundo entero capta gran número de nuestros contemporáneos.
Recouvrant des réalités tout à fait distinctes, le tourisme s'effectue lors d'un temps de non-travail, dans des paysages souvent lointains, toujours exotiques. Dans un là-bas partiellement conquis par les voyageurs l'ayant précédé, le touriste évolue entre repères et ruptures.
Envolviendo realidades totalmente claras, el turismo se lleva a cabo durante un tiempo sin trabajo, en paisajes frecuentemente lejanos, siempre exóticos, en un allá parcialmente conquistado por los viajeros que lo precedieron. El turista evoluciona entre referencias y rupturas.
Un impératif relie le touriste à sa société d'origine. Témoigner. Pour nous certifier la prégnance de ce principe, mettons-le en rapport au moment, propice à réprimande, où l'on se refuse à l'envoi de cartes postales. Lorsque l'image de ces dernières, si cadrée, ne nous permet pas de restituer ce que l'on a observé en ces territoires, et qu'au dos, le vide proposé n'est propice qu'à la plus basique correspondance.
Un imperativo une al turista con su sociedad de origen. Testimoniar. Para certificarnos la fuerte huella de este principio, pongámoslo en relación con los momentos propicios a reprimendas, en los que se rechaza el envío de tarjetas postales, cuando la imagen de estas últimas, tan enmarcada, no nos permite restituir lo que hemos observado en esos territorios y que al dorso, el espacio propuesto, es solamente propicio para la correspondencia más básica.
En effet, si les guides touristiques conviennent des lieux incontournables, ainsi que du temps de visite à leur accorder, en leur échappant, l'incongru, se présente aux regardeurs, et ce, à chaque coin de rue. S'offre, se vende ou se dérobe à son approche les vécus d'altérité qui ne cessent de le surprendre et que la carte postale ne sait traduire.
En efecto, si las guías turísticas muestran los lugares ineludibles tanto como el tiempo de visita que se les debe acordar, escapándose de ellas, lo incongruente aparece ante el observador y esto en cada esquina. Se regalan, se venden o se roban al acercarse las vivencias de alteridades que no cesan de sorprender y que la tarjeta postal no sabe traducir.
La carte postale, ce ne sont pas les cartes postales de Leningrad, mais la carte postale que l'on peut trouver dans une ville qui apparemment... Déjà, il est difficile de trouver une carte postale à Buenos Aires, non ? Vous en avez trouvé facilement ?
Oh oui, entre tous les clichés de tango, du Caminito. D'ailleurs, ouais. Dans mon livre, j'évoque le passage d'un quartier très touristique qui est tout en couleurs. Et tous les touristes vont que là et ne sortent pas de là. Ouais. Et c'est terrible.
En sortant de Buenos Aires, il est pratiquement impossible de trouver une carte postale. Mais effectivement, et on en trouve de très belles parce qu'elles sont des vieilles cartes postales. Alors c'est vrai que cette fonction de carte postale, elle est capitale. Juste, si je peux me permettre une petite anecdote, la première fois que je suis allée à Buenos Aires, je cherchais des cartes postales et je me suis trouvée devant un kiosque et il y avait un monsieur à côté de moi et je lui ai dit « Pouvez-vous m'aider à trouver une carte, à choisir une carte postale ?» Il s'est tourné vers moi, il était aveugle. Il a ri et il m'a répondu « Eh bien, non, regardez autour de vous. » Mais bon, alors... Je n'ai pas... Ça m'était resté, effectivement. Alors, ce désir, en fait, dans ton livre, c'est vraiment un désir de témoigner, alors, par la carte postale ou par le livre, ce témoignage, comment tu t'en es approché ?
Bien, justement, je voulais pas tomber dans le cliché, donc je pense que les photos que vous allez découvrir dans le livre, c'est pas du tout les cartes postales que vous auriez pu recevoir par l'un de vos amis qui serait parti à Buenos Aires. Et justement, Nicolas en parle bien dans la postface, qui dit que quand on visite un lieu, quand on cherche à envoyer une carte postale, une trace de ce qu'on a pu voir sur place à quelqu'un qui ne connaît pas ce lieu, on ne trouve jamais la carte idéale, entre guillemets, je parle idéal, parce que ça ne reflète vraiment pas ce que nous, on a ressenti, en fait. Donc c'est toujours délicat, il y a toujours une différence, un écart entre ce qu'on aimerait montrer et ce que les cartes postales du pays nous proposent. Donc je pense que, Nicolas, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus.
Oui, j'imagine très bien le voyageur arrivant à Besançon et devant faire un choix entre 50 versions de la citadelle. À Paris, ce sera encore plus difficile, il aura certainement 200 versions de la Tour Eiffel. Et c'est toujours problématique, d'autant qu'on a beaucoup de connaissances à qui envoyer des cartes postales. En fait, on s'en rend peut-être pas toujours compte, mais toutes les cuisines familiales ont leur petit tableau de cartes postales. Les bureaux d'administration sont aussi riches en cartes postales qui peuvent être assez sympas. Alors, dans les cuisines, on va avoir bis de Buenos Aires, par exemple. Dans les bureaux, ce sera plutôt enfin la retraite ou des messages de genre un peu plus humoristiques. Priscilla avait fait une recherche sur la carte postale qu'elle m'avait communiquée, dans laquelle elle déduisait une obsolescence de la carte postale. Mais non, la carte postale n'est pas obsolète, même à l'heure d'Internet et des SMS.
MMS, pardon, avec l'image.
Ah oui, j'en suis pas encore là. En fait, l'envoi de carte postale va en quelque sorte à contresens du célèbre proverbe « loin des yeux, loin du cœur » et traduit l'attachement de celui qui l'envoie à ceux qui les reçoivent, quoi. Ça a en quelque sorte aussi une fonction d'intégration, de reconnaissance de la personne dans sa famille ou dans son ancien travail une fois qu'il est parti à la retraite.
Alors, de belles cartes postales nous montrent de beaux clichés, nous montrent ce livre. On a dû apporter des cartes postales aussi.
Oui, hein. C'était le laisser-passer pour assister à l'émission ce soir.
Ouf, on en a. Moi, j'en ai apporté, en tout cas, des cartes postales. Je vous rappelle quand même qu'on est sur Radio Bible 96.9 et que nous écoutons Priscilla Tenard nous parler de son livre « Vue de Buenos Aires ». Ileana Pardo Guzmán, traductrice, lectrice, et Nicolas... auteur de la postface. Alors, ces cartes postales, qu'est-ce qu'on en fait?
Alors, est-ce que déjà vous les avez apportées là ce soir? Vous les avez sur vous? Ah, on peut compter sur combien de personnes ce soir?
Une, deux.
Ok. Ah, super, il y en a plusieurs là-bas. Ok. Alors, je vous laisse en choisir une si vous en avez apporté plusieurs déjà. Peut-être on va essayer d'avoir des cartes postales d'Amérique latine, mais bon. Et pendant que vous choisissez votre carte, peut-être je propose à Nicolas de nous lire un petit peu pour nous rafraîchir la mémoire la fonction de la carte postale, en fait. D'où ça vient et pourquoi ce soir ça nous intéresse.
La fonction, on va peut-être pas aller jusque-là, mais on va faire une petite description technique de la carte postale. Alors la carte postale est un moyen de correspondance écrite qui se présente sous la forme d'un morceau de papier cartonné, rectangulaire, de dimension variable. Le format le plus courant est le format A6, soit environ 10 x 15 cm. Il est nécessaire de rappeler que la carte postale s'envoie principalement sans enveloppe, l'adresse et l'affranchissement y étant portés directement dessus, à côté du message. Il y a des éléments vachement intéressants sur la carte postale. Savions-nous que de 1900 à 1920, âge d'or de la carte postale, l'usage en était pratiquement quotidien, de sorte qu'avant la diffusion générale du téléphone, on l'utilisait même d'un quartier à l'autre d'une même ville. Par exemple, pour se donner rendez-vous le lendemain.
Les MMS, quoi.
Voilà. Sinon, il y a eu tout un tas de modèles, des illustrations différentes.
Alors, il existe aussi plusieurs catégories de cartes postales. Peut-être qu'on pourra en découvrir quelques-unes si l'un de vous, par exemple, Samuel, est-ce que tu voudrais nous parler de ta carte postale et nous la décrire déjà, nous la montrer.
Voilà, en fait, c'est une carte postale du lac d'Alos que
comme
je connaissais.
C'est en cours d'espagnol, mais en français.
D'accord. Donc, c'est une carte postale du lac d'Alos que je connaissais absolument pas, qu'on m'a envoyé cet été. Donc, le lac d'Alos, il se situe dans les Alpes de Haute-Provence. Et c'est un lac qui a une altitude de 2220 mètres dans les massifs du Mercantour. Voilà, je montre à tout le monde.
Ok, merci Samuel. Donc, celle-ci, catégorie paysage, on peut dire, non? Vous êtes d'accord avec moi?
Tout à fait d'accord.
Okay. Je pense, oui.
Est-ce qu'on aurait une autre catégorie ce soir?
Moi, j'ai une catégorie animalière, des chamois, je crois, envoyés des Alpes par mon petit-neveu. Et alors, Alexandre, qui m'a fait des dessins superbes derrière. Hein. Donc, je suppose que la grand-mère a marqué Alexandre, mais les dessins sont du neveu. Voilà, avec un Edelweiss.
Merci, Chantal. Alors, une autre carte.
Moi, j'ai une carte qui vient de Marrakech. C'est le jardin Majorelle, donc avec des fleurs superbes, exotiques, palmiers, bougainvillées. Enfin, elle est magnifique. Et quand on la reçoit, on a envie d'y aller. Je dois préciser que j'adore recevoir des cartes postales et que ça fait toujours plaisir de voir où sont partis les amis, la famille. C'est magnifique, c'est bien. Et puis, moi, à mon tour, j'en envoie aussi quand je pars à l'étranger ou même en France, puisqu'on a de beaux paysages. Toujours quelque chose à faire partager.
Un objet lien pour dire « j'existe » aussi.
Moi, j'avoue que je m'envoie des cartes postales. Ah. Oui, quand je suis loin, je m'envoie une carte postale.
Est-ce qu'on a d'autres cartes?
Oui, j'ai une carte là, une reproduction de tableau. Et c'est donc une autre catégorie, puisque c'est des cartes éditées là pour une association Village du Monde pour enfants. Donc il y a le côté militant, si on peut dire.
Daniel, on a une carte aussi. Super.
Moi, j'ai une carte Salvador de Bahia, et c'est une danse.
Ah,
c'est une danse qui simule la lutte. Donc, j'ai beaucoup aimé cette carte parce que c'est plus original qu'un paysage, des paysages en fait qui sont toujours les mêmes.
On a aussi une histoire ensemble, Daniel. Tu m'as offert une carte, tu te souviens? Tu m'as offert une carte postale du début du siècle qui représentait un nu de l'époque, qui était un nu habillé avec un...
Ah oui, c'est vrai. Oui, oui.
Avec une femme qui avait une tunique proche du corps, et c'était les cartes postales un peu érotiques.
Les cartes postales, oui, les cartes postales érotiques de 1910, oui.
Pour ma part, je ne vais pas pouvoir montrer de carte postale. Par contre, je peux faire une distinction entre deux types de cartes postales, puisqu'avec mon ami, on voyage pas mal et on envoie pas mal de cartes postales. Mais pour ma part, j'envoie des cartes postales qui sont un peu obligatoires, entre guillemets, des cartes postales que j'envoie à mes grands-mères, etc. Et mon ami, par contre, envoie des cartes postales qu'elle envoie à longueur de voyage, pour le plaisir, etc. Voilà.
Moi, j'ai des cartes, c'est ma maman. Moi, en vacances, elle envoie à des gens. Et puis, c'est des fois, c'est moi qui les fais.
Super. Alors, tu dois être très copine avec Alexandre. Tu vois, lui aussi, il fait des cartes postales.
Et c'est aussi un sacré budget quand on voyage d'envoyer des cartes postales. Alors oui, d'ailleurs, j'en parlais avec Nicolas quand je suis allée à Buenos Aires. J'ai envoyé peut-être une trentaine de cartes. Ça représentait un budget de 150 pesos, qui représente quand même un dixième d'un salaire mensuel là-bas, quoi. Donc, un dixième, c'est ça. Donc c'est quand même énorme, quoi, quand on fait le rapport sur place.
Oui, parce que c'est à peu près $1 la carte postale et $1 le timbre, quelque chose comme ça. Donc, ça dépend des... Ouais. Hein, c'est à peu près ça.
Généralement, le timbre est plus cher que la carte maintenant. Hein.
Alors, de la musique, peut-être?
Oui, on fait une petite pause.
Une petite pause musicale sur Radio Bip 96.9 avec Priscilla Tenor. Nous rappelons à nos auditeurs que nous sommes ouverts à tout commentaire. Vous pouvez nous appeler au téléphone numéro 03 81 53 70 44 ou 06 19 25 56 20. Ou si vous préférez envoyer un mail, latinoamericayi, latinoamericayi, @voila.fr, la boîte mail de La Parole et le Chant, la voix hispano-américaine depuis Besançon. Radio Bip 96.9, on retrouve Priscilla Tenard et son livre « Vue de Buenos Aires » avec peut-être quelques lectures. Fais-nous rêver encore un peu, Priscilla.
Métro Constitution. Deux chiens montent. Ils semblent 100 mètres. De station suivante, ils descendent à Independencia. Cette anecdote n'a pas échappé aux passagers.
En el metro, niños amerindios depositan sobre las rodillas de los viajeros cauchos para el pelo, estilográficos, libros de cocina, tiritas, la guía T, línea de buses, imágenes religiosas, adhesivos. Los pequeños mercaderes ambulantes recorren las líneas por algunos centavos.
A la gare de Retiro, il y a deux grandes files d'attente, l'une pour acheter de la monnaie, l'autre pour les tickets.
Con el semáforo en rojo, un grupo de malabaristas se toma el ancho de la calle y proponen un corto espectáculo a los automovilistas mientras el semáforo se pone en verde.
Dans le train, à chaque arrêt, des vendeurs de confiseries passent dans les allées, comme à l'entracte d'une pièce de théâtre. Il n'y a pas de distributeur automatisé sur les quais.
Las líneas de tren a través del país están totalmente abandonadas. Las estaciones ferroviarias están cerradas desde hace varias décadas, como en Santiago del Estero. Estas ceden el paso a modernas estaciones de carretera.
Le pavement des trottoirs est très ancien. Il est déformé par les racines des arbres. Tous les 10 mètres, on trouve des sols différents. Les propriétaires restaurent à leur gré la partie qui les concerne. Et ils sont responsables des arbres devant chez eux. Les employés municipaux nettoie la route et les caniveaux.
Cada calle es un museo del automóvil. Uno descubre Renault 11, 18, Fiat 500, Peugeot 403, 404, 505. El lustrado es de rigor. Todos vieron sus días prolongados con nuevas envolturas de lata y repuestos. Latonero y mecánico, profesiones que no desaparecen acá.
Au cœur de la Boca se trouve la Bombonera, littéralement boîte de bonbons. Toutes les maisons autour de ce stade revêtent le bleu et le jaune de la Boca Junior. Jour de match ou non, ce quartier populaire vibre pour le football. À la recherche de leurs couleurs, l'équipe de la Boca Junior avait choisi de porter celle du drapeau du premier bateau qui entrerait dans le port de la Boca. Il était suédois.
En la esquina Monroe y Freire tiene lugar una misa. La iglesia está repleta de fieles de todas las generaciones. Acompañados por un guitarrista, cantan. Un altoparlante difunde en directo el culto en la calle. Los fieles se arrodillan sobre el atrio.
Les enseignes publicitaires sont souvent peintes à la main, directement sur le mur. Ce style porte le nom de fileteado. Chaque boutique assure sa publicité et même de grandes firmes utilisent ce procédé.
Bravo. À propos de la Boca, si je peux me permettre d'avoir une petite anecdote. La première fois, aussi, une des fois où je suis allée à Buenos Aires, j'ai acheté à la Boca un petit bracelet bleu, hein, où écrit la Boca,
et rentrant
chez mon hôte, tout le monde m'a regardé d'un air mauvais. Alors j'ai dit, j'ai fait quelque chose de mal. Il m'a dit, t'es pas pour les rivières? T'es pour la Boca? J'ai quoi de, j'avais mis le bracelet de l'équipe de foot de la Boca.
Boca Junior.
Et du coup, ceux qui n'étaient pas pour la Boca me l'ont fait ressentir âprement. Bravo, en tout cas, un bonheur d'entendre cette voix merveilleuse d'Ileana, qui n'est pas seulement lectrice, mais aussi traductrice. Alors, quel travail, Ileana, pour ce livre.
Bonsoir, merci Chantal, je crois qu'on n'entend pas. Effectivement, ça a été un travail long à faire, mais très agréable, surtout parce que, effectivement, le livre est une promenade autour de Buenos Aires. Ce n'est pas simplement traduire des phrases, c'est lire et voir les images Priscilla a pu mettre là-dedans. C'est un livre différent. Ce qui est écrit est différent, ou différemment écrit plutôt. Donc ce n'est pas toujours évident de pouvoir le traduire comme on veut. J'espère avoir fait un bon travail. Ceci dit, j'ai été accompagnée effectivement par Rodrigo Pardo, qui connaît Buenos Aires, qui a participé au match de foot. Je ne sais plus s'il est fan de Boca Juniors ou de River Plate, mais il a adoré cette expérience. Donc, pour lui aussi, ça a été une belle expérience d'aider à la traduction de ce livre. Je me permets de féliciter Priscilla et Nicolas, parce que vraiment, c'est un très, très beau travail, différent, et je vous invite tous à le découvrir.
Merci, Léana. En tout cas pour ceux qui ont la chance de comprendre l'espagnol, c'est un double cadeau que vous nous avez fait ce soir. Alors, il est temps de conclure. Le mot de la fin de ce... Priscilla, on va te le laisser à toi, bien sûr, avant d'une dernière lecture.
Alors déjà, dans un premier temps, moi je voulais aussi remercier la Maison Chauffante, qui est la maison d'édition, dont on n'a pas encore vraiment parlé, mais c'est aussi le moment. Donc la Maison Chauffante est une maison d'édition associative et byzantine. C'est animé par un collectif d'artistes. C'est grâce à Véronique Dietrich que j'ai rencontré, qui m'a amenée dans cette aventure des maisons d'édition dans laquelle je suis bénévole, et donc on est soutenu par le Centre Régional du Livre de Franche-Comté, le Conseil Régional de Franche-Comté. Et donc, juste pour le fonctionnement, on présente des projets. Il y a une commission de personnes au CRL qui se réunit et qui donne leur approbation et nous attribue des subventions pour pouvoir continuer le projet. Donc, mes deux premiers ouvrages sont aussi passés par ce chemin-là. Donc, c'est aussi important de dire qu'il a été soutenu par ces personnes indispensable pour nous aujourd'hui à la Maison Chauffante pour faire des livres. Voilà, donc un grand merci aussi à eux.
Alors, puisqu'on en est au remerciement, on remercie aussi Radio Bip 96.9 pour ce grand effort de diffusion de la culture hispano-américaine. Merci Christine.
Merci Christine.
Anécdota sin imagen. Imágenes sin anécdota. S'ensemblent pour faire un inventaire.
Anecdote sans image, image sans anecdote. S'assemble pour faire état des lieux.
Las fotografías y las entrevistas escogidas revelan aberraciones.
Les photographies et les brèves choisies sont révélatrices d'aberrations.
Estas descubren anomalías que se normalizan, sin sentidos que se vuelven lógicos.
Elles dévoilent des anomalies qui se normalisent, des non-sens qui deviennent logiques.
Se situan en un tiempo dado.
Elles se situent dans un temps donné.
Están delimitadas por espacios comunes que mantienen despiertas a las organizaciones urbanas y sociales, a las escogencias políticas y económicas, a los hábitos y costumbres, a los encuentros entre las entidades individuales y colectivas.
Elles sont délimitées par les espaces communs qui maintiennent en éveil les organisations urbaines et sociales, les choix politiques et économiques, les mœurs et coutumes, les rencontres entre les identités individuelles et collective.
Bravo et merci à tous les trois, Priscilla, Nicolas, Ileana. Merveilleux livre de vue de Buenos Aires. C'était pour Radio Bip 96.9. On termine en musique et vive le festival Latino Corazón.
éclats d'harmonisme autour de moi, éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et là vient me jeter entre ses bras, emporté par la foule qui nous draine, nous entraîne, écrasé l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, et traînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Poussée par son sourire, me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure, et traîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emporté au loin, et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais revu.
C'était La Parole et le Chant, la voix hispano-américaine depuis Besançon, une émission de Radio Bip et la Maison de l'Amérique latine de Besançon, produite par Chantal Mort.